Merci d'écouter Inter, il est 19h21.
France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur cette question qui divise un certain nombre de Français, voter ou non au second tour. Depuis lundi, nous enchaînons les éditions spéciales du Téléphone Sonne et beaucoup d'entre vous nous disent qu'ils iront évidemment voter, quel que soit le bulletin mis dans l'urne au premier tour. Leur argument est simple, Emmanuel Macron, quoi qu'on en pense, est républicain et n'a rien à voir avec le Front National de Marine Le Pen. D'autres nous disent au contraire que ce second tour n'est pas le leur et qu'ils n'y participeront pas ou qu'ils voteront blanc. Alors qu'en pensez-vous, amis auditeurs d'Inter? Qu'allez-vous faire justement dimanche prochain? Intervenez ce soir jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
01 45 24 7000 franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Telson. Je salue Anne. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Nous vous écoutons, Anne.
Bonsoir, moi pour répondre à votre question, oui bien évidemment je vote, je suis républicaine et je vote pour Emmanuel Macron parce que je ne veux pas laisser mon pays et pas avoir la honte de laisser mon pays au Front National. Il ne faut pas oublier que si Emmanuel Macron a peu de voix et que l'écart se fait à un 52-48 ou à un 51-49, une grosse partie des Français ayant voté pour le Front National, il sera obligé de proposer un poste de ministre à un élu Front National, à une personne Front National, et qu'on sera les premiers depuis la Seconde Guerre mondiale à avoir de l'extrême droite au gouvernement. Et ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas accepter. Donc là, je fais un appel solennel à mes copains. Moi, je suis socialiste et je dis que les copains de Mélenchon, les copains de socialistes, arrêtez. On est en démocratie, on fait une révolution quand on est sous une dictature. On n'a jamais vu personne faire une révolution sous une démocratie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en amener une de vraie dictature. Et cette fois-ci, ça, je leur pardonnerai jamais.
Anne, ma chère Anne, que disent vos copains, justement? Vous échangez autour de vous?
J'échange beaucoup autour de moi, notamment avec des électeurs insoumis. Et énormément estiment que Emmanuel Macron est un candidat bourgeois et que Marine Le Pen est une candidate nantie et que les deux sont pareils et donc vont s'abstenir. Là, moi, j'ai envie de leur dire, les bourgeois, c'est vous, parce que on n'apprécie jamais assez quelque chose quand on est dedans et quand on en profite. Le jour où on n'aura plus cette démocratie, là, à ce moment-là, je pense que tout le monde pleurera les larmes de leur corps.
Et le dialogue avec vos amis insoumis qui ont donc voté Jean-Luc Mélenchon est un dialogue vif, un dialogue courtois. Comment ça se passe?
C'est un dialogue, on essaie d'être le plus courtois possible. On est de gauche et on espère qu'à un moment donné, après tout ça, on réussira peut-être à trouver un accord. Mais très honnêtement, les plus insoumis, ceux vraiment qui, cet après-midi, sont allés faire une manifestation complètement stupide à Paris qui ne fait que renforcer le vote Front National, parce que ça ne fait que renforcer la crainte dans les rues. Ces gens-là, le dialogue est aussi difficile que de dialoguer avec des gens du Front National, finalement. Mmh. Parce qu'ils ont la même haine, ils ont la même envie de tout détruire. Pour faire quoi après? Je ne sais pas.
Merci Anne pour cette première intervention. Avant de faire circuler la parole en studio ici à France Inter, je voudrais que Joël s'exprime. Bonsoir et bienvenue, vous nous appelez de Nancy.
C'est ça, bonsoir.
Nous vous écoutons Joël.
Merci de donner la parole.
Je vous en prie.
Bien, donc moi j'ai voté Mélenchon en 2012 et j'ai revoté Mélenchon en 2017. Il nous a concocté un programme de rêve qui ne s'est pas réalisé malheureusement. Je vais m'abstenir pour le deuxième tour.
Et pour quelle raison, Joël?
Eh bien, en 2002, j'ai rejoint le Front Républicain, j'ai voté Chirac, et après, il s'est cru élu par 80% des électeurs. Je ne souhaite pas que ça recommence.
Et donc, pour vous, c'est de ne pas voter qui est la solution pour éviter que ça recommence?
C'est-à-dire que si Marine Le Pen, maintenant, est dédiabolisée, encore que pour moi, elle ne l'est pas du tout, ces idées passent maintenant, je considère que c'est grâce à Nicolas Sarkozy qui a repris son credo sur l'identité nationale et son credo sur l'immigration pour lui piquer des voix en 2012.
Écoutez, restez avec nous, Joël. Restez avec nous. On va amorcer le dialogue avec les invités du Téléphone Sonne. Bruno Cotrez, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur CNRS au CEVIPOF. Raphaël Glucksmann, bonsoir.
Bonsoir.
Essayiste, auteur de Notre France, dire et aimer ce que nous sommes, publié chez Alary Éditions. Céline Braconnier va nous rejoindre dans quelques instants. Raphaël Glucksmann, qu'avez-vous envie de dire à Joël, qui est encore en ligne?
Bonsoir, Joël. Vous-même, personnellement, vous pensez qu'une France présidée par Marine Le Pen, c'est une situation bien plus catastrophique qu'une France présidée par Emmanuel Macron?
Bien plus catastrophique, catastrophique les deux, pour les salariés,
À égalité ?
Pour tout le monde, à égalité. Sur le fond, la haine, je n'aime pas, je préfère l'humanisme, mais sur la vie quotidienne de tous ces pauvres gens qui aujourd'hui ne s'en sortent plus, Macron va nous faire aussi une catastrophe.
Raphaël Glucksmann.
Non, c'est une discussion que moi j'ai avec mes amis aussi, comme la première intervenante. C'est une discussion permanente sur, pour moi, puisque ni vous ni moi, nous n'avons voté Emmanuel Macron au premier tour, ça veut dire qu'on n'adhère pas à son projet. C'est une discussion permanente sur cette idée de la hiérarchisation des périls, des dangers ou des insatisfactions. C'est ce fameux vote contre. J'entends partout dire « j'en ai marre de voter contre, je ne veux plus voter contre, je veux simplement voter pour un projet, pour un programme ». Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui fait que si nous ne votons pas contre, eh bien, nous allons rendre possible l'arrivée du pire. Et que chez beaucoup de gens qui discutent avec moi, il y a aussi cette idée que de toute façon, Marine Le Pen ne passera pas. Et que donc, ils peuvent ne pas, en gros, se salir les mains avec un bulletin Emmanuel Macron puisqu'ils refusent de le faire, mais que de toute façon, leurs voisins, leurs amis, eux, voteront. Même s'ils n'ont pas voté au premier tour, ils voteront Emmanuel Macron et que donc, ça préservera l'essentiel, c'est-à-dire la non-venue de Marine Le Pen au pouvoir. Mais je pense que là, il y a un problème de déresponsabilisation, c'est-à-dire que finalement, on exige de son voisin qu'il fasse ce que soi-même, on ne veut pas faire. Et c'est un dialogue qu'il faut mener dans les jours qui viennent parce que finalement, ne pas voter, c'est consentir à l'arrivée au pouvoir de la personne qui est la plus éloignée de soi et qu'on déteste le plus entre les deux.
Bruno Cotrez, sur les appels de nos deux auditrices, quelle est votre réaction?
Ce que je trouve de vraiment intéressant, c'est que les deux auditrices représente les deux facettes de ce que nous, les spécialistes des élections et du vote, nous étudions. On démontre que le vote, il est avant tout motivé par des considérations à la fois dans le domaine de l'économie, les inégalités, les injustices, ou au contraire, le sentiment qu'il faut que l'économie soit plus fluide, etc. Et puis aussi la question des attitudes politiques, des valeurs, des croyances, de principes, qui dépasse la question de l'économie. Et au fond, on voit bien les deux facettes. Joël, c'est vraiment la question de l'inégalité. Elle considère qu'au fond, après avoir voté au 21 avril 2002 pour Jacques Chirac, elle n'a pas vu que son vote était pris en considération. Et elle, qui est une électrice de Jean-Luc Mélenchon, elle renvoie une électrice fidèle, 2012-2017, elle renvoie Emmanuel Macron, d'une certaine manière, au fait que lui ne va rien faire pour lutter contre les injustices. Mais dans son raisonnement, on ne voit pas bien la deuxième facette du vote, qui est la question des principes, des valeurs, etc. Alors que Anne, elle, qui est une électrice socialiste, au fond, elle nous dit, moi, je sais qu'Emmanuel Macron, c'est pas la gauche, peut-être, dont j'ai envie, mais c'est l'autre facette qui va l'emporter. C'est au-delà de la question économique, c'est l'attachement à un certain nombre de grands principes. Et donc, c'est à chacun, au fond, en son fort intérieur d'électeur, d'arbitrer entre ces deux dimensions. Mais chacun va être un peu influencé à la fois par ces deux dimensions.
Céline Braconnier, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être au micro de France Inter, directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, auteur avec Jean-Yves Dormagin de La démocratie de l'abstention. C'est publié chez Gallimard. Tout ce débat qui n'existait pas en 2002, lors du 21 avril, voter, ne pas voter, Front Républicain, tout cela semblait parfaitement évident et ne se formule plus du tout de la même manière. Est-ce que ça vous étonne ?
Ça m'étonne pas vraiment, parce que on entend beaucoup au cours des enquêtes de terrain dire que finalement le Front National est peut-être pas si c'est peut-être pas le diable comme on pensait que ça pouvait l'être en 2002, y compris dans les quartiers qui sont pas prêts à basculer pour elle. Hein, on entend dire ça. Donc il n'y a pas de vote en sa faveur, mais elle est plus forcément capable de mobiliser contre elle une partie des milieux populaires, en tout cas, qui voteront pas pour elle. Bon, il y a une différence aussi avec la situation de 2002, c'est qu'au premier tour en 2002, il y avait une forte abstention. Et que du coup, il y a eu une culpabilisation très forte des abstentionnistes. On avait un niveau d'abstention qui était inhabituel. Donc la mobilisation s'est faite aussi auprès de ceux qui habituellement votent à une présidentielle et qui, là, n'étaient pas venus voter précisément parce que le second tour était joué d'avance, croyait-on. Et du coup, il y a eu une remobilisation, mais qui a abouti à un taux de participation qui était plutôt dans la norme de ce qu'on enregistre habituellement à une présidentielle, hein, qui n'a pas été extraordinaire non plus. Donc là, il y a une différence, c'est que il y a une partie des votants du premier tour qui s'apprêtent à éventuellement se démobiliser, sans qu'il y ait vraiment une marge de manœuvre, enfin un réservoir de voix du côté des abstentionnistes énorme, puisque le taux de participation a été plutôt assez bon par rapport en tout cas à ce qui était annoncé.
On retourne au standard et puis la parole circule évidemment en studio. Chantal est avec nous. Bonsoir Chantal, vous nous appelez de la belle ville de Hyères.
Oui, j'appelle de Hyères dans le Var où le FN a fait un score absolument décourageant, on va dire pour moi en tout cas.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire?
Alors, au soir du premier tour, j'étais vraiment, vraiment très, très en colère. D'abord que l'union de gauche, voilà, parce que, bon, comme tout le monde, enfin, comme tous ceux qui sont à gauche. Et j'ai dit jamais Macron. Jamais Macron, parce que pour moi, c'était mondialement. Je pensais plutôt au niveau mondial. Je me disais que bon, c'était la paupérisation mondiale, c'était les sinistrés du climat, c'était etc. Enfin, ça représentait tout ça. Et puis hier soir, j'ai rencontré des amis, dont ma sœur, et bon, ils ont fini par me convaincre que finalement, Madame Le Pen, c'était pas aussi gentil que finalement elle le dit, que c'était pas des gens normaux. Ces gens-là sont des vrais nazis, ont des réseaux. Et ce qui me gêne un peu, c'est que on ne parle pas beaucoup de ces fameux réseaux avec lesquels elle travaille. Ces réseaux nazis, hein, qui sont dans toute l'Europe, et avec lesquels elle est en contact permanent. Et puis, ils m'ont aussi dit, mais tu te rends compte, d'un côté, on aura Poutine, de l'autre, on a Trump, et nous, on aura Le Pen au milieu. Mais comment peut-on imaginer une géographie pareille?
Et donc vous allez aller voter, Chantal, on a bien compris.
Je vais voter Macron, bien sûr.
En vous bouchant le nez, dites-vous. Merci Chantal pour cette intervention. On va faire attention peut-être aux adjectifs et aux qualificatifs type nazi pour parler du Front National. Si les mots ont un sens, celui-là n'est pas à employer là. Raphaël Glucksmann.
Non, sans parler de nazi, il y a une chose tout à fait vraie qui vient d'être dite. C'est que le Front National prétend avoir changé, alors qu'en réalité, autour de Marine Le Pen, on retrouve des gens comme Lousteau ou comme Châtillon qui ont été écartés par le père pour extrémisme. Quand Marine Le Pen se met en congé de la présidence du Front National, son remplaçant, le président par intérim du Front National, est quelqu'un qui va rendre hommage au maréchal Pétain et qui va expliquer doctement à Saint-Cloud qu'on ne peut pas utiliser du Zyklon B pour une extermination de masse parce que c'est techniquement impossible. Donc un négationniste, un révisionniste. Ce n'est pas un parti comme les autres. Le Front National n'a pas fait ce que d'autres partis en Europe, comme le parti de Gianfranco Fini en Italie, a fait, c'est-à-dire un aggiornamento idéologique profond, une critique de son propre programme et de sa propre vision du monde. Non, le Front National n'a pas réellement changé. Par contre, nous, nous avons changé. Nous avons changé dans notre rapport au Front National. Nous avons laissé les idées du Front National pénétrer dans la société comme dans du beurre. Quand vous avez, pendant 15 ans, entre 2002 et aujourd'hui, des gens comme Éric Zemmour qui abreuvent les ondes et les médias de leurs théories xénophobes, évidemment, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué ensuite de faire appel à la mobilisation pour barrer les routes à ces questions de au Front National sur ces questions de principes et de valeurs, puisque nous-mêmes, nous avons laissé des grilles de lecture d'extrême droite pénétrer dans la société et dans nos consciences. Et donc, c'est là, on paye, dans cette absence de mobilisation, on paye 15 ans de démission dans le combat culturel, dans le combat idéologique, 15 ans qui ont permis à Le Pen, non pas de changer ses propres idées, mais de changer les nôtres.
Céline Braconnier, une question sur la mesure du phénomène. Cette forme-là d'abstention ou cette forme de retrait qui consiste à dire « je n'irai pas pour telle et telle raison, j'ai bien réfléchi, c'est structuré ». C'est pas « je suis loin du système politique et je serai loin dans 15 jours aussi ». Non, c'est vraiment revendiqué. Est-ce qu'on peut mesurer cette part-là de l'abstention et à qui profite-t-elle? Ça, c'est la question subsidiaire.
Alors, c'est compliqué hein, de dissocier les différents facteurs de l'abstention, mais là, en l'occurrence, quand on est face à des gens politisés, qui donnent un sens, quand on les interroge très précis au fait de ne pas se rendre aux urnes, l'explication est beaucoup plus facile. La difficulté, c'est que la plupart du temps, les logiques de l'abstention sont très marquées par des facteurs sociaux, démographiques, et que les gens ne choisissent pas de ne pas y aller. Ils n'y vont pas. Ils sont tellement loin que ils n'y vont pas. Ou alors, ils sont désenchantés, mais ça reste très, très global. Là, cette part d'une abstention qui est politiquement motivée, elle est beaucoup plus facilement mesurable et il faudra la mesurer. Mais c'est assez inhabituel. Attention, hein, c'est pas encore joué. Le taux
on
de
voit que les gens peuvent changer d'avis aussi.
Exactement. Et ce que je voulais souligner dans l'intervention de Chantal, ce à quoi je tiens beaucoup, c'est cette capacité, je pense, beaucoup plus que les prises de position finalement des candidats et de leurs proches à voter ou à ne pas voter. C'est la capacité des proches, des environnements, des familles, des amis à convaincre d'y aller ou pas. On sait très bien que le niveau de participation, surtout à une présidentielle, il est lié à la capacité de ces dispositifs informels de mobilisation à être activés. Mmh. C'est ça qui marche. C'est quand un ami prend le temps nécessaire pour vous convaincre qu'il faut y aller. Quand un collègue au bureau... L'élection présidentielle, elle fait parler d'elle. Et ça donne une chance jusqu'au bout à la dynamique d'entraînement collectif au vote. On vote en groupe, on vote en famille, on vote en couple. Et c'est il y a une vraie puissance, une vraie capacité d'entraînement de ce côté-là.
Bruno Cotterès.
Oui, c'est effectivement ce qui m'a frappé dans Chantal et son témoignage. C'est effectivement l'influence de ses proches. Pour reprendre ce que Céline vient de dire, effectivement, c'est ça qui est vraiment intéressant. Le vote, c'est ce paradoxe où c'est un acte qui est hautement individuel, personnel, privatif. On s'enferme dans l'isoloir et en même temps, on n'est jamais seul dans l'isoloir. On vient accompagné par ses proches, par sa famille, par le contexte, l'environnement dans lequel on est électeur. Et c'est vrai qu'au moment de la campagne électorale, ça joue un rôle absolument essentiel. Pour revenir sur la question aussi sur le Front National, sa pénétration dans les débats publics, dans l'espace public, français. Il faut rappeler un certain nombre de scores. Ça ne date pas d'hier. Jean-Marie Le Pen, à la présidentielle de 1988, il fait déjà 14,5%. 95, il fait 15%. 2002, il se qualifie pour le deuxième tour. D'une certaine manière, il n'y a que la dynamique Sarkozy de 2007 qui stoppe le phénomène, mais Le Pen, il fait quand même 10% dans ce contexte-là. Marine Le Pen est troisième de l'élection de 2012. Le Front National gagne les européennes de 2014, performe aux élections régionales de décembre 2015. Donc effectivement, on voit ce phénomène grandir depuis un bon petit moment.
Raphaël Glucksmann.
Et on peut aussi lire dans les enquêtes d'ailleurs de votre institut sur les idées du Front National, qu'elles progressent dans la société. C'est-à-dire que sur l'immigration, sur la peine de mort, sur l'Europe, il y a tout un tas de sujets où les grilles de lecture du Front National progressent. Et donc ça veut dire que ce parti a encore une marge de progression et qu'il ne faut pas croire qu'il a un plafond de verre qui sera à son score du premier tour ou même au score de ce second tour-là. Parce que ces idées sont encore plus populaires que le nombre de voix qu'ils recueillent. Et donc là, il y a vraiment une alerte à avoir, une alerte pour reprendre le débat culturel, intellectuel, social, et à nouveau mobiliser la société française.
Bruno Cotterêts, rapidement.
Oui, même l'idée que c'est pas un parti comme les autres est une idée qui, dans la société française, est en recul. Dans l'enquête que nous réalisons au CVPOF pour cette élection, on demande la probabilité que vous ne votiez jamais pour un parti politique. Et on voit que la probabilité de voter ou de ne jamais voter pour le Front National, elle arrive finalement à des mêmes taux que ceux d'autres partis politiques aujourd'hui.
Est-ce que quelqu'un peut faire un point précis sur ce qu'on appelle, ce sera vous Céline Braconnier, l'abstention différentielle ?
Alors l'abstention différentielle, c'est celle qu'on enregistre, qui différencie, disons, du point de vue de la participation, le camp qui gouverne de celui qui est dans l'opposition. En fait, c'est le fait qu'il est beaucoup plus facile de mobiliser l'opposition, qui est portée par le rêve d'alternance, que les déçus de l'électorat qui a porté au pouvoir le gouvernement, le président de la République, etc. Donc c'est ça, ça renvoie au fait que, de façon continue, sauf en 2007, hein, où Nicolas Sarkozy a réussi à incarner le changement alors qu'il sortait du gouvernement, sauf pour cette fois-là, l'alternance s'est toujours produite. Et ça s'explique en partie par une capacité de mobilisation plus forte de l'opposition. Et c'est une logique qu'on retrouve très marquée pour les élections intermédiaires. Hein, ce qui explique le basculement à droite, et d'ailleurs les forts taux en faveur du Front National aussi, qu'on a enregistré au cours des dernières élections, c'est cette abstention différenciée. C'est le fait que non seulement on a eu des candidats, et notamment le Front National, qui ont été capables de mobiliser massivement, mais c'est surtout que l'électorat de la gauche ne s'est pas du tout mobilisé et que ceux qui gouvernent ont été incapables de mobiliser leur électorat antérieur.
Avant de donner la parole à Raphaël Glucksmann, une question supplémentaire. On lit beaucoup de choses sur cette abstention différentielle appliquée au second tour de l'élection présidentielle avec cette idée qu'elle pourrait surtout profiter à Marine Le Pen. Qu'en pensez-vous, Céline Braconnier ?
En réalité, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On a vu qu'au cours des scrutins précédents, qui sont des scrutins qui, du point de vue de la participation, sont pas du tout du même ordre, hein, parce que l'abstention y était très élevée. Marine Le Pen a montré, et les candidats du Front National de façon générale, ont montré leur capacité à mobiliser un électorat au second tour qui était abstentionniste au premier. Hein, donc il y avait une réserve de voix en même temps que leur capacité à alimenter la porosité des frontières, c'est-à-dire à récupérer une partie des électeurs d'autres partis, et notamment de la droite classique du premier tour. Donc voilà, elle peut aussi perdre une partie de son électorat. Pourquoi ? Parce que l'électorat de Marine Le Pen, si les enquêtes ne se trompent pas sur sa sociologie, c'est un électorat qui est quand même marqué par à la fois la jeunesse, hein, il y a une surreprésentation des jeunes, notamment des jeunes les moins diplômés, par une surreprésentation des milieux populaires. Or, dans ces milieux-là, on sait bien que la participation n'est pas aussi facile que dans d'autres milieux. Il y a une prédisposition à l'abstention. Donc, on n'a pas de référence sur son électorat potentiel, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un électorat difficile à mobiliser. Or, il y a un fort renouvellement à chaque présidentielle qui est difficile à mesurer à partir d'enquêtes par sondage. Il faudra attendre, hein, des études sur les listes d'émargement, mais on sait qu'il y a un fort renouvellement. Ce ne sont pas les mêmes électeurs, pas complètement, qui participent aux deux tours. Donc, on va perdre des électeurs et on va en gagner d'autres. À qui, voilà, ça va profiter. On sait juste que la sociologie de son électorat lui est pas forcément très favorable en termes de mobilisation.
Raphaël Glucksmann, puis Bruno Cotterêts.
Sur l'abstention différentielle, la spécificité de cette élection, c'est qu'en gros, tous les candidats se présentaient comme étant en rupture avec le gouvernement sortant. C'est-à-dire qu'y compris le candidat du Parti Socialiste, Emmanuel Macron, l'ancien membre de ce gouvernement, Jean-Luc Mélenchon, évidemment François Fillon et Marine Le Pen. Donc c'est compliqué de savoir là dans quel sens ça joue, puisque tous étaient en rupture avec le gouvernement. C'est pour ça que la stratégie de deuxième tour de Marine Le Pen, c'est évidemment de constamment remettre Macron dans les pas de Hollande pour dire c'est lui le sortant. Donc la mobilisation doit être plus forte de mon côté. Et par ailleurs, sur la question sociologique, ce qui est frappant et ce qu'il faut admettre, et ce qu'il nous faut admettre à nous, enfin en tout cas moi qui m'apprête à voter pour Emmanuel Macron, c'est que la carte sociologique, la carte des votes entre les deux, est réellement une carte qui montre qu'il y a des classes sociales dans ce pays, qu'il y a classes sociales favorisées qui votent pour Emmanuel Macron et des classes sociales défavorisées qui votent massivement pour Marine Le Pen. Et ça, c'est quelque chose à mon avis, qui doit hanter la campagne finale d'Emmanuel Macron. Il doit s'adresser à ces gens. Il doit s'adresser loin de tout triomphalisme, loin de toute arrogance, loin de... Il doit parler à cette France-là qui peut basculer du côté de Le Pen parce qu'elle souffre, pas parce qu'elle est raciste ou xénophobe, mais parce qu'elle souffre. Et en un sens, ça recoupe quand même les cartes qu'on a vues au moment du Brexit ou des élections américaines. C'est-à-dire que Marine Le Pen arrive en tête dans 18 000 communes, donc les petites communes, alors que Macron 7 000, les grosses villes, les centres-villes. Et là, on a un réservoir de voix immense parce qu'il y a eu beaucoup d'abstention au premier tour aussi pour Marine Le Pen.
Bruno Cotterêts, puis Maggie au standard.
Oui, il faut rappeler effectivement, les élections, elles ont cette extraordinaire qualité, qu'elles sont un rappel à l'ordre régulier de comment fonctionnent nos sociétés. Et l'élection, c'est comme d'une certaine manière un certain recensement des opinions qu'on peut mettre en adéquation, en corrélation avec le recensement des structures sociodémographiques, socio-économiques. Et on voit effectivement bien, ça vient d'être redit, que des véritables fractures, classes, segmentations s'expriment à travers le vote et nos sociétés ne sont pas spontanément égalitaires. Et donc effectivement, le jour des élections, d'une certaine manière, les comptes se règlent de ce point de vue-là et c'est ça dont parlent les élections beaucoup. Et c'est vrai que là, on a vu s'exprimer très fortement des écarts entre différentes électorats. Il y a aussi quelque chose qui est très important dans la campagne de l'entre-deux-tours. On parlait de la stratégie du réservoir de vote que le Front National peut essayer de solliciter. Depuis dimanche soir, on voit bien que la stratégie du Front National, c'est d'essayer de réactiver le 29 mai 2005, c'est-à-dire le référendum sur le traité constitutionnel européen, et d'essayer d'aller réactiver cette idée que par-delà toutes les différences idéologiques, la question de la souveraineté nationale devrait pour eux réunir un certain nombre d'électeurs et on voit que le Front National essaie de réactiver cette rhétorique. C'était en 2005, c'était il y a 12 ans, donc il faudra voir bien sûr comment cette question de l'Europe vient continuer à travailler, à casser, à redéfinir, remodeler la vie politique française
le 7 mai. Ça vous étonne, Raphaël Glucksmann, qu'entre 2002 et 2017, le débat public soit passé d'une forme d'évidence absolue, alors qu'il peut s'expliquer, Céline Braconnier l'a fait, d'évidence absolue à faire barrage au Front National, à aujourd'hui un débat comme celui qu'on a aujourd'hui avec un certain nombre de nos auditeurs qui ne se sentent pas, requis par ce débat-là ou par cette obligation-là.
C'est pas le Front National qui a changé, c'est nous qui avons changé. On paye 15 ans de démission idéologique et culturelle face aux grilles de lecture de l'extrême droite. On paye 15 ans de fiasco social et de politique économique qui ont échoué. On paye 15 ans d'un grand oubli de la classe politique de s'adresser à ces classes dont nous parlions, à ces gens qui sont pas nécessairement culturellement nationalistes ou racistes, mais qui sont dans un état de déshérence culturelle et sociale et auxquels les partis traditionnels ne s'adressent plus. Donc, on ne peut pas être surpris. Par contre, ce qu'il faut impérativement faire, c'est d'expliquer ce que signifie le triomphe du Front National. Vous savez, moi, je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron, donc ça veut dire que je ne crois pas que son programme ou son projet soit mirifique. Par contre, ce dont je suis absolument convaincu, c'est que le programme du Front National, le projet du Front National, eh bien, serait une catastrophe pour la France. Comme l'a dit l'auditrice auparavant, eh bien, ce serait le fait que la France bascule après les États-Unis, dans ce camp trumpo-poutiniste du césarisme post-démocratique. Ça veut dire que nos institutions seraient menacées, ça veut dire que nos modes de vie et la manière dont on discute autour de cette table seraient menacées, ça veut dire que l'interaction qu'on a avec nos auditeurs serait menacée. Et donc là, il y a vraiment une urgence pour moi à réhabiliter le vote contre et ensuite à lutter pour qu'enfin la classe politique réponde à ces problématiques qui conduisent au vote Front National.
Maggie, bonsoir.
Oui, bonsoir Monsieur Demorand, bonsoir à vos invités.
Bonsoir, bienvenue Maggie.
Merci, voilà, je tiens à vous faire part de mon indignation parce que je suis effarée. Voilà, la maison brûle en ce moment, mes voisins m'aident, me passent des seaux d'eau, je me fiche bien pas mal de savoir que mes voisins sont végétariens ou adorateurs du ver de terre, je prends les seaux d'eau qui me tendent et j'éteins le feu. Et je trouve qu'en ce moment, les gens, bon, je peux comprendre les raisons, hein, mais beaucoup de gens font la fine bouche. Ah ben non, je veux pas voter Macron, ce ne sont pas mes idées, je n'aime pas le FN, donc je m'abstiens, c'est le nini, c'est l'abstention. Mais c'est mathématique, il suffit de regarder. Si on s'abstient, si on vote blanc, si on vote nul,
on fait monter le Front National. Et ça, ça me scandalise qu'on ne développe pas ce raisonnement. Je ne comprends pas. Et bien sûr, là, je viens d'écouter tout ce qui vient d'être dit, mais malgré tout, non, je ne comprends pas. Je pense qu'il faut parer au plus pressé.
Restez en ligne, Maggie. Allez-y.
J'ai voté pour Macron au premier tour, alors que mon opinion, c'était plutôt socialiste. Je me retrouvais bien chez Benoît Hamon. Mais vu les sondages, j'ai dit non, c'est pas la peine, je vote utile. Et pour le deuxième tour, c'est la même chose. Et voilà, je ne comprends pas que des gens ne tiennent pas davantage ce type de raisonnement. Il faut parer au plus pressé.
Merci Maggie, restez en ligne, c'est mathématique, dit notre auditrice Céline Braconnier. Ne pas voter, s'abstenir, voter blanc, etc. Fait monter le Front National.
Alors ça, il y a plein de théories qui circulent. J'ai encore lu dans Le Monde de ce soir que voilà, toute abstention apportait une demi-voix à celui qui allait gagner. Bon, on entend pas mal de choses là-dessus. Ce qui est sûr, et moi ce que je retiens dans l'intervention de Maggie, c'est qu'elle a fait son choix dès le premier tour en fonction des sondages. C'est-à-dire c'est une obsession, mais en fait c'est intéressant aussi, c'est aussi parce que les instituts de sondage ont annoncé dès le soir du premier tour, et même je crois en anticipant, hein, comme les résultats étaient assez proches de ceux annoncés sur ce premier tour, qu'en cas de duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen, Monsieur Macron l'emporterait largement, hein, à environ 60%, que ça produit ces discussions-là. Pourquoi ? Parce que c'est pas pareil, si on est sûr Monsieur Macron l'emporte. Alors la question de la participation, ça devient celle de la légitimité dont Monsieur Macron sera porteur, et non plus la question de est-ce qu'on fait barrage au Front National ou pas. Et c'est ces chiffres extrêmement importants, corroborés par plusieurs instituts de sondage, qui produisent ces discussions et des hésitations dont vous parliez au départ, Monsieur.
Oui, de toute façon, elle va perdre.
Donc est-ce que ça a un intérêt
d'envoyer un message, entre guillemets, et
de renforcer la légitimité de Monsieur Macron, dont on sait très bien qu'une fois qu'il sera élu, il oubliera l'origine des voix qui l'ont porté à l'exercice du pouvoir.
Raphaël Glucksmann,
tout à fait. Mais d'abord, il faut se poser aussi une question quand on est dans cette logique-là. Est-ce qu'une France avec un Front National à 35, à 40, à 45 ou à 47, si on pense qu'elle ne peut pas gagner, ce que je conteste formellement, mais est-ce que ce serait la même France? Est-ce qu'une France avec 35% de voix pour le Front National ou une France avec 45% de voix pour le Front National, ce serait la même France? Est-ce qu'il y aurait les mêmes résultats aux législatives? Est-ce que pendant 5 ans, parce que si pendant 5 ans, on a Marine Le Pen l'héritière de ses 47 ou 45% au présidentiel, eh bien, ça gèlera la classe politique, ça gèlera le débat. C'est pas ça qui va permettre la refondation de la gauche, parce que on sera... les ministres refusent de vivre dans une panique pendant 15 jours en disant qu'elle est fabriquée, parce qu'ils ne croient pas à la possibilité de la victoire de Marine Le Pen, mais on vivra dans cette panique pendant 5 ans. C'est-à-dire que plus elle est haut, il ne s'agit pas seulement de la battre, plus elle est haut, plus elle monopolisera l'attention pendant les 5 ans qui viennent, et plus le débat démocratique à gauche sera compliqué à mener. Donc là, il s'agit... vraiment de la mettre le plus bas possible. Donc chaque voix compte dans cette perspective.
Céline Braconnier.
Oui. Alors pour poursuivre votre raisonnement, si le taux de participation est à peu près équivalent au deuxième tour, si on arrive à un taux de participation à peu près équivalent au deuxième tour à celui enregistré au premier tour, et que Marine Le Pen fait 40%, ce qu'annoncent les sondages, ça doublera quand même son nombre de voix.
Oui, parce que
14 millions. Oui. Hein, donc évidemment, une société qui enregistre pour une élection où la participation est massive, 14 millions de voix en faveur du Front National, c'est pas la même société qu'une société où il y en a deux fois moins.
Parce que ce qui est assez étonnant, c'est qu'en 2002, on en parlait, c'est 80-20. 80 pour Jacques Chirac, 20 pour Jean-Marie Le Pen. Et aujourd'hui, le débat porte sur le 80 et non pas sur le 20. Et donc, il ne porte pas sur un Front National à 35, 40, 45, comme le disait Raphaël Glucksmann à l'instant. On a changé totalement de planète, Raphaël.
Moi, je pense qu'aujourd'hui... les ministres qui font comme si on était en 2002 se trompent d'époque. Nous ne sommes plus en 2002. Désormais, toutes ces perspectives de 80-20, effectivement, Chirac aurait été élu sans ma voix. J'ai quand même été voté pour lui et je ne l'aimais pas plus que Emmanuel Macron. Mais j'ai été voté pour lui et il aurait été élu sans ma voix. Mais on n'est plus du tout dans la même société. Les idées du Front National pèsent infiniment plus lourd aujourd'hui. Sa marge de progression est infiniment plus grande et donc notre responsabilité à chacun d'entre nous qui nous opposons au Front National est plus importante qu'en 2002.
Yves, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez du Finistère, nous vous écoutons.
Donc moi je vais aller voter. Je ne vais ni déposer un bulletin Le Pen, parce que Le Pen, c'est le loup avec une toison de mouton qui n'attend que le moment de rentrer dans la bergerie, ni Macron, parce que de toute façon, il ne va travailler que pour les privilégiés. Je ne vais pas voter nul non plus, parce que le vote nul, même si... Non, je ne vais pas voter blanc, je m'excuse, parce que le vote blanc, même s'il ne fait plus partie des nuls, n'est pas prise en considération, donc j'ai décidé de voter nul. Et je ne m'abstiens pas, parce que l'abstention, on ne fait pas la différence entre le pêcheur à la ligne et l'anarchiste ou l'abstention politique, donc je vais me déplacer, je vais mettre un bulletin avec un petit texte assez court, ou une citation, ou simplement un petit mot, toi qui viens d'ouvrir l'enveloppe, je te fais une grosse bise. Mais
il n'y a pas, permettez-moi une question Yves, il n'y a pas pour vous de différence de nature entre le parti de Marine Le Pen et le mouvement d'Emmanuel Macron, entre ce que l'un incarne et défend comme idée et ce que l'autre incarne et défend comme idée? Il n'y a pas de différence pour vous?
Il y a une très grosse différence, mais tous les deux, ce sont des partis qui vont travailler pour des privilégiés. Donc c'est pour ça que je vote nul. Pour montrer aussi que les gens se sont déplacés. Et non pas, s'il y a beaucoup d'abstention, on ne va pas pouvoir faire la différence. Voilà.
Yves, permettez-moi une autre question. Vous connaissez le proverbe, au premier tour on choisit, au second on élimine. Vous vous sentez totalement affranchi de cette logique-là, de l'élection?
Tout à fait, parce que moi, je suis activiste écologiste et humaniste. Et je vais mettre entre autres comme citation, si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage, au moins semons des fleurs. Et ni Macron ni Le Pen ne vont semer des fleurs. Ils vont semer des pleurs, oui. Voilà.
Merci Yves. Restez en ligne, Raphaël Glucksmann vous répond.
Oui, moi ce qui m'interpelle dans la plupart des témoignages, c'est des gens qui ne veulent pas voter et qui sont humanistes, c'est ce grand oubli qu'est la xénophobie. Personne ne peut suspecter Emmanuel Macron d'être un xénophobe. Et moi, dans toute mon enfance, dans toute mon adolescence, le grand thème de mobilisation, c'était ce thème de l'antiracisme, qui a été battu en brèche pendant 15 ans depuis 2002 et qui, aujourd'hui, ne mobilise plus. Mais il est temps de comprendre qu'il y a une différence de nature entre un mouvement xénophobe qui va changer les règles du jeu et un mouvement dont on peut critiquer la politique sociale et économique, qui va, en gros, continuer, c'est un problème, ce qu'il y avait déjà au pouvoir, mais qui ne contestera pas les règles du jeu. C'est-à-dire qu'on sera toujours libre de faire des manifestations, il n'y aura pas de ratonnade dans les rues, et il n'y aura pas de milices dans les rues non plus. Je veux dire, on est là, à mon avis, dans une confusion qui est un problème de hiérarchisation des problèmes. Et ça, c'est lié, encore une fois, à mon avis, à notre attitude vis-à-vis de la politique. C'est-à-dire que On arrête maintenant de faire des hiérarchies.
Bruno Cotterêts, d'un mot rapide, on doit bientôt terminer le téléphone sonne.
Oui, à propos de Yves, je trouve que son témoignage traduit l'état de, au fond, de vraiment de perte de repères de beaucoup d'électeurs. Il a dit, au fond, Macron et Marine Le Pen vont faire une politique pour des privilégiés. J'aurais bien aimé savoir s'il avait voté au premier tour et pour qui il aurait voté, ou pour qui il a voté. Mais ça traduit son discours, traduit en toile de fond quelque chose d'assez paradoxal. Il veut à la fois donner une dimension expressive, presque protestataire, un vote nul.
Un vote qui sera nul.
Voilà,
pour finir.
Un vote nul, il y en a eu très très peu, et en même temps, au premier tour, et en même temps, il nous dit, au fond, ils sont tous les mêmes, etc.
Donc, Céline. Oui, Céline Braconnier.
Je voudrais, pour prolonger ce qu'il vient de dire, prévenir Yves que son bulletin ne sera évidemment pas comptabilisé dans les suffrages exprimés et que personne, à part celui qui va ouvrir son enveloppe et qui est dans un bureau de vote, ne lira le message qu'il pense pouvoir envoyer par ce biais-là.
Donc autant mettre le bulletin à la poubelle tout de suite,
exactement,
c'est ça ce que vous voulez dire. Merci à tous les trois. Bruno Cotterêts, Sévi Poff, Céline Braconnier, directrice de Sciences Po, Saint-Germain-en-Laye avec Jean-Yves Dormagin, La démocratie de l'abstention. Merci Raphaël Glucksmann, auteur de Notre France, Dire et aimer ce que nous sommes chez Alary Éditions. Il est 20h, allez voter. Merci d'écouter France Inter.